Aujourd'hui, dimanche 5 mai, je vais bien. Enfin bien, je vais pas mal. Je vais pas hyper bien non plus. Bon ben, vous vous en doutez, on va pas vous mentir, on n'est pas en direct. On est parti en vacances cette semaine. Je serais bien resté travailler, mais on nous a obligés à partir. Moi, les vacances, ça m'angoisse, ça me fait peur. Sous prétexte qu'on est en vacances, on n'a pas le droit d'être de mauvaise humeur. Les gens sont là à vous dire « Ça va, détends-toi, t'es en vacances, profite. » Mais profite de quoi ? Au ski, faut faire la queue 40 minutes pour descendre 30 secondes. À la campagne, t'es dupé par le soleil qui brille mais qui n'est pas encore chaud. Du coup, il fait 18 degrés, tu te balades en t-shirt, tu prends l'apéro toujours en t-shirt alors que la température est tombée à 12 et t'attrapes un rhume comme un con. En plus, j'aurais adoré être à Paris aujourd'hui. Oui, à Paris ou à Meaux. Car oui, figurez-vous qu'aujourd'hui est un jour de fête, un jour de joie. On célèbre l'anniversaire d'un homme de conviction, d'un homme de combat, d'un homme qui a su aller au-delà de son état physique délicat pour être un homme de fond, pour être un homme de valeur. Cet homme qui aujourd'hui fête ses 55 ans est un exemple pour nous tous. Bon anniversaire, Jean-François Copé. Ah. L'émission le jour de l'anniversaire de Jean-François Copé. Je suis sûr que ça va être une bonne émission pour le coup. Bonjour et bienvenue dans Vous les femmes pour m'accompagner. Vous le savez, c'est l'homme qui a tous les talents. Albert Algou, comment allez-vous ?
Je vais très bien car une fois de plus, vous me mouillez la compresse, vous me faites des compliments. Et c'est le mois de mai, enfin le mois de mai est arrivé, donc je suis d'autant plus content d'être là et d'autant plus content que nous avons deux invités remarquables dont je n'ai pas le droit de dire le nom tout de suite. C'est vous qui allez les nommer.
Stop au suspense, nos invités en ce dimanche 5 mai sont...
France Inter. Vous les femmes, Daniel Morin.
Écrivaine, philosophe, romancière, réalisatrice, scénariste, parolière. Son œuvre va du thriller aux essais en passant par les livres plus intimistes. Ses autres univers sont le théâtre et le cinéma, mais aussi la chanson. Aujourd'hui, elle vient nous voir pour son dernier ouvrage, L'envie d'y croire. Bonjour et bienvenue à vous, Eliette Abécassis.
Bonjour.
Dis donc, c'est long de vous présenter. Et attention, car face à vous, aussi impressionnante, auteure, boxeuse, 10 fois championne de France, championne du monde 2008, vice-championne olympique 2016. Du coup, bien sûr, prof de boxe, mais aussi chef d'entreprise, coach sportif, conférencière, éducatrice spécialisée, vice-présidente du Comité national olympique et sportif français, ambassadrice pour les Jeux olympiques Paris 2024. Bonjour et bienvenue à vous, Sarah Ouramoun.
Bonjour.
Ça va ?
Très bien.
C'est vrai tout ce que j'ai dit ?
Oui, oui, c'est vrai.
C'est pas trop long ?
C'est vrai. Non, donc vous avez j'accepte.
Je valide. En tout cas, c'est pas moi qui vais vous contrarier. 10 fois championne de France, 10 fois championne du monde. Ouais, je vais pas faire mon malin. Alors, c'est une présentation un peu sommaire, j'en conviens les amis. Alors, pour vraiment mieux vous connaître, je vais laisser la parole à un ami. Ami et se trouve cousin d'un ancien ministre de la Culture. C'est à vous, Jean-Jacques Lang.
Hello, vous les femmes.
Oui.
Et vous aussi, tous les autres, quels que soient vos genres et vos penchants, dont vous, Danny, comme ça, j'oublie personne.
Vous semblez particulièrement réjoui, Jean-Jacques.
Quelle perspicacité, Danny Chou. Si je me réjouis, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'honneur et l'avantage de recevoir deux femmes en tout point épatantes, intelligentes. Oui. Fervente, captivante, brillante, passionnante,
exigeante.
Bon, ne bride point mon enthousiasme d'Anito Mio, car après ce tas de trucs en hante, j'allais ajouter que tant Eliette Abécassis que Sarah Ouramoun sont deux battantes, deux combattantes. Chère Eliette Abécassis, vous vous battez contre l'aquabonisme, le fatalisme, fanatisme, crétinisme, technologisme, utilitarisme...
Attention, c'est vous reprendre, Gigi, là. Enchaînez, s'il vous plaît.
Mais, chère Eliette, vous ne luttez pas seulement contre. Vous vous battez pour. Pour redonner l'espérance... Oui, c'est pas mal, c'est chier. Pour redonner l'espérance qui ne donne sens à la vie que pour remettre l'homme au cœur du problème, ce que vous appelez la foi. Et voyez-vous, je suis d'autant plus solidaire de ce projet moral et universel que vous le formulez dans mon style, mon style. Tenez, page 25 de L'envie d'y croire, vous écrivez, je vous cite, « Nous sommes devenus nous-mêmes extrêmes dans nos comportements, nos débats et nos actes. Hystérisation, stigmatisation, oppression,
beaucoup de choses
judiciarisation, victimisation, délation, accusation. C'est du Gigi pur jus, c'est du Jean-Jacques tout craché. »
C'est vrai qu'on se sent comme une influence.
Quant à vous, chère Sarah Ouramoun, j'ai kiffé à donf votre livre « Mes combats de femmes ». Je me suis bien sûr passionné pour le parcours de ces jeunes femmes qui débuta à 14 ans à Aubervilliers, au 41 rue Lécuyer, et qui, tout en poursuivant ses études, vécut sa passion jusqu'à devenir championne du monde et vice-championne olympique, Dany vient de le dire. Mais ce qui m'a frappé, c'est le cas de le dire, dans votre livre...
Parce que vous êtes drôle.
Mais oui, mais pas aussi drôle. Albert Algou qui me le disait très brillamment tout à l'heure.
Oui.
Hein, ce livre qui tient tant du récit initiatique que que de la chronique d'une ascension sociale à la Dickens. C'est qu'il s'agit aussi d'un combat opiniâtre contre les préjugés sexistes au nom desquels trop longtemps en France, les femmes furent exclues des combats de boxe officiels.
Merci,
John. J'ai pas fini, Danny. Car je tiens à dire que si j'aime la boxe, tant masculine que féminine, c'est parce que pour moi, le noblard est proche de la dance. Et de ces jeux de chambre, je vois le ring comme un dance floor, où ça saute, sautille, où il faut avoir le swing, le cross, le jab. Je sens que je vais me remettre dès ce soir. Et au banana, je vous invite toutes et tous à une grande soirée, Punching Ball et Poppers.
Oh, bonne merci. Émission. Alors ça, c'est vraiment sportif. Punching Ball et Poppers. Nos invités aujourd'hui sont Elietta avec Assis et Sarah Oramoun. Ouais, nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Vous êtes sur France Inter, les amis. Malik, Judy, belle sueur et bon dimanche à vous. Malik Judy, belle sueur sur France Inter.
Vous les femmes, Daniel Morin, sur France Inter.
Nous sommes en compagnie d'Eliette Abécassis pour L'Envie d'y croire, journal de l'époque 100 fois, à croire en nous-mêmes et dans les autres, chez Albin Michel. Également présente Sarah Oramoun, mes combats de femmes, combat pour l'égalité des chances, combat pour l'égalité des sexes et accessoirement combat pour péter la gueule de l'adversaire, car n'oublions pas qu'elle est boxeuse et ce livre, c'est chez Robert Laffont. J'ai très très peur parce qu'elle me fait oui de la tête. Nous allons revenir sur quelques dates de vos parcours, mesdemoiselles, mesdames. On commence par vous, Sarah, si vous le voulez bien.
Oui.
1996, c'est la découverte de la boxe. Ça se faisait dans quelles conditions ?
Ça a été un peu par hasard. Mm-hmm. Je ne m'imaginais pas du tout boxeuse. Alors, j'ai touché un peu à tout. J'ai fait de la natation, du judo, de la danse, du rock'n'roll acrobatique, enfin un peu de tout.
Ah oui.
Et en fait, je suis arrivée sur Aubervilliers parce que mes parents ont déménagé. Et je cherchais un club de taekwondo. J'avais envie de découvrir un peu cet art martial. Et le club avait brûlé durant l'été, donc j'ai poursuivi mon chemin. Et je me suis retrouvée nez à nez devant une salle magnifique, avec des fresques, un ring. Et en fait, j'y suis entrée vraiment par curiosité, parce que c'est un univers qui m'était pas du tout familier, à part Rocky. Je ne connaissais rien de la boxe. Et en fait, j'y suis entrée pour me renseigner, savoir un peu ce qui se faisait en espérant que peut-être les cours de taekwondo auraient été transférés dans cette salle. Et pas du tout. J'ai rencontré un entraîneur, Saïd Benajem, qui lui était un ancien boxeur de haut niveau, qui a été boxeur professionnel et surtout qui a fait les Jeux de Barcelone en 92. Et lui m'a parlé de la boxe, mais vraiment avec amour. C'était le noblard, l'escrime des poings. C'était monter sur un ring pour mettre en place une stratégie de jeu, apprendre à gérer ses émotions.
Donc doucement, il était en train de vous hypnotiser. Il vous a contaminé,
voilà, il m'a hypnotisé. À côté de la boxe, il travaillait au marché aux puces, donc vendeur, et il a su me vendre sa discipline.
Et vous l'a vendu.
brillamment. Et donc, je suis revenue. J'ai succombé. Je suis revenue le lendemain et j'ai fait une séance avec lui de boxe éducative. Et j'ai adoré parce qu'on s'entraînait en musique, il y avait une vraie solidarité. Et puis surtout, on apprenait à toucher sans se faire toucher et réfléchir aux stratégies de combat, essayer de trouver la faille chez l'adversaire. Et c'est tout ce côté ludique qui m'a séduite.
Et donc, en 1999, c'est le droit de boxer pour les femmes en France. C'est à partir de cette date-là.
En 96, en fait, on pouvait s'entraîner dans une salle.
Mais pas quand
l'entraîneur le voulait, c'était pas toujours le cas. Il y avait plein d'entraîneurs qui refusaient les femmes parce qu'on nous disait qu'on allait perturber les boxeurs. Là, moi, j'ai eu de la chance d'avoir Saïd, qui, lui, était quand même très ouvert. Il donnait déjà des cours dans les écoles, donc il était confronté à des petites filles. Et donc, il avait envie de transmettre sa passion, et peu importe le genre de la personne qui était face à lui.
Et je crois que la musique qu'on entend, c'est une musique qui vous rappelle des souvenirs de l'époque.
Ouais. Ça, c'est une musique que Saïd écoutait beaucoup. C'est notre génération. Moi, j'étais encore ado. Et KDD, c'était c'est des souvenirs d'enfance. Ça me rappelle des moments d'entraînement où à la fin de la séance, on restait dans les vestiaires parler pendant de longues heures. Et quand Saïd fermait la salle, il nous chassait. Mais voilà, c'est des bons moments. Et c'est aussi des moments où on partait en compétition. Moi, ça a été les premiers déplacements où je partais loin de chez moi le week-end pour aller... un peu partout voir les autres boxer, puisque moi j'avais pas le droit, et c'est comme ça aussi que j'ai eu envie de faire comme eux. Je voyais mes collègues s'entraîner, s'affûter, être hyper fière d'aller boxer quelle que soit la décision, et à l'époque je me disais mais pourquoi pas moi, quoi, j'attendais que ça. Et puis enfin en 99 la fédération a autorisé les combats pour femmes, et donc là j'ai pu suivre leur pas.
Et en 2012, la boxe pratiquée par les femmes est intégrée au programme olympique. Et là commence...
Là, ça a été une étape importante, oui. Parce que avant 2012, on avait très peu de moyens, peu de reconnaissance. Je ne dis pas qu'après, on en a eu beaucoup plus, mais on en a eu quand même un peu. Mais c'est vrai que tant qu'on n'était pas olympique, c'était compliqué. On n'était pas vraiment considéré, on n'était pas pris au sérieux. On n'avait pas forcément un entraîneur attitré. Très souvent, on découvrait l'entraîneur national à l'aéroport. Donc, quand on était en plein combat, c'était assez compliqué de le regarder, de lui faire confiance. Et après 2012, là, on nous a dit « Ok, maintenant que vous êtes olympique, on va mettre un peu de moyens. » Donc là, on a commencé avec trois catégories de poids, 12 places par catégorie, donc 36 femmes dans le monde qui pouvaient prétendre à une participation aux Jeux de Londres. Faut savoir qu'en face, les hommes sont à peu près 255, 260. Bon, après, ils sont au jeu depuis toujours. Mais voilà, nous, 36 places avec un parcours de qualification un peu compliqué, puisque un seul tournoi de qualification avec mort subite. Donc, dès qu'on perd, l'aventure s'arrête. Mais pour nous, 2012, c'était très symbolique parce que c'était déjà le seul sport qui n'était pas représenté par les femmes au jeu. Et c'était fort, quoi. C'était un message très fort pour les femmes, pour les boxeuses. Enfin, on se rendait compte que, en plus du rêve sportif, du rêve olympique de participer à ces Jeux de Londres, c'était une réelle avancée pour la place des femmes dans la société, quoi.
Et en 2012, là, vous êtes adoubée par les Jeux Olympiques, qui reconnaissent comme sport féminin, mais vous sentiez quand même autour de vous qu'il y avait un certain détachement par rapport aux hommes qui vous prenaient pas au sérieux.
Ça a été un peu compliqué, parce que donner des places aux femmes, c'est enlever des places aux hommes. dans le mouvement sportif, il y a très peu de femmes dirigeantes. Hein. On le sait, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule femme présidente de fédération olympique sur 116. Et donc, dans la boxe, il n'y a pas de femmes, hormis peut-être des secrétaires. Donc, voilà, quand il a fallu donner des places aux boxeuses, ça n'a pas été forcément bien accueilli. Maintenant, on est quand même respecté par nos homologues parce qu'ils savent ce que ça demande en termes d'engagement, de travail, de courage, de monter sur un ring. Et pour ça, on est respecté quand même.
C'est dingue quand même, une seule femme à la tête d'une fédération internationale, Eliette Abécassis, ça vous fait réagir?
Bah oui,
c'est assez dingue.
Oui, mais vraiment, je crois que le féminisme se réinvente à chaque époque. On n'en a pas fini avec la libération des femmes et chaque époque retrouve des nouveaux moyens de les aliéner. Et effectivement, on est toujours étonné de savoir que c'est très compliqué pour une femme d'accéder de toute façon à un poste de direction, quel qu'il soit.
Tout court, oui.
Mais oui, tout court.
Parce qu'on a quand même l'impression que la condition de la femme s'améliore au fur et à mesure des combats. Et il y a un exemple qui arrive, comme ça, on nous dit, vous savez que sur toutes les fédérations internationales de sport, il y a simplement une seule femme qui est à la tête de ça. Bon, comme quoi le combat est loin d'être gagné. Alors, ces Jeux Olympiques qui finissent par arriver, 2016, et là, quand même, super résultat.
Super résultat, oui. En fait, j'ai arrêté ma carrière après 2012. J'ai pas réussi à me qualifier.
Oui, il faut le préciser. Hein. Vous arrêtez.
J'arrête.
Vous avez une petite fille.
J'ai une petite fille. Et puis, c'est vrai que les Jeux, c'était un rêve d'enfant. Je sentais que c'était encore.
Rêve de tout sportif, en plus.
Quand on est sportif, forcément, les Jeux, c'est une compétition.
Ils font rêver, ouais.
Et moi, j'avais ça encore dans les tripes, quoi. J'y pensais tous les jours. Et donc, 2 ans avant les Jeux, en 2014, je me dis qu'il faut absolument que je tente l'aventure parce que je commençais à avoir des regrets, je commençais à avoir peur de traîner un peu ça toute ma vie. Et je me suis dit, bon, il faut que j'essaye. S'il y a une chance d'y arriver, il faut que je la tente. Et donc, je suis partie sur 2 ans de préparation. Ouais, assez compliqué parce que une maternité, quand on est sportif, c'est pas facile. Souvent, les fédérations considèrent que la maternité, ça signe l'arrêt d'une carrière. Et puis, physiquement, il fallait aussi que je réapprenne à boxer avec ce nouveau corps. Il y avait quand même 2 ans sans boxe, sans combat, c'est énorme. Et puis, je sentais bien que j'étais différente. Et puis, que la boxe aussi avait évolué. En 2 ans, les femmes étaient devenues beaucoup plus physiques, beaucoup plus agressives. Et donc, j'avais un temps de retard. Donc, j'ai eu 2 ans pour tout réajuster et j'ai eu la chance de pouvoir vivre mon rêve à Rio.
Mais là, c'est envers et contre tout. Il y a beaucoup de gens qui misent pas 3 copecs sur vous. Il y a beaucoup de gens qui vous découragent. Vous le racontez, vous dites que vous n'allez pas y arriver, que c'est un rêve pieux et un but totalement illusoire. Mais malgré tout, vous y allez. Et puis, il y a des gens qui vous aident, dont des hommes autour de vous. C'est ça qu'il faut signaler.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que dans mon parcours, c'est souvent des hommes qui m'ont aidée. Déjà, le premier, Saïd. Et puis après, quand j'ai décidé de reprendre, j'ai mon mari qui m'a énormément soutenue. Ça a été un vrai projet familial. C'est-à-dire que s'il n'avait pas été là, je pense que ça aurait été compliqué. Il était là pour pallier à mes absences auprès de notre fille et puis surtout pour me soutenir. Lui a été boxeur professionnel, donc il savait ce que je vivais.
Est-ce que vous deviez endurer? Ouais,
et puis il a toujours été honnête avec moi. Donc à chaque fois qu'il voyait que soit je travaillais pas assez, soit que j'allais dans la mauvaise direction ou que je prenais les mauvaises décisions, il était toujours là pour m'éclairer. Et puis après, j'ai eu Marcel, mon beau-père, qui m'a accompagnée. Et lui, c'était assez drôle parce que quand j'ai repris, ça a été un des premiers à me dire « Écoute, Sarah, t'es maman, maman de ma petite-fille en l'occurrence, et je ne peux pas concevoir qu'une maman boxe, tu dois t'occuper de ta fille. » Et il a pris du temps, hein, mais c'est lui qui m'a quand même préparé
après,
pour Rio.
Il est à fond après.
Ah ben aujourd'hui, il a des équipes de filles, il prépare des femmes de tout âge et c'est un convaincu. Mais c'est vrai que c'est la vieille école et lui, il a grandi en se disant une femme sur un ring, c'est pas possible.
Ça n'existe pas. Ça
ouais,
ne
il
pas
disait
exister.
Une femme ne peut pas prendre des coups. Mais pourquoi un homme peut en prendre?
Alors, on dit que ça développe des valeurs et des vertus, la boxe, c'est vrai?
C'est vrai. Moi, j'ai appris déjà à avoir confiance en moi. J'étais une jeune ado assez introvertie, pas du tout en confiance. Et Saïd m'a donné confiance parce que lui, il m'entraînait et puis il me disait « Mais c'est super, tu vas y arriver, t'es une championne. » Alors que moi, je me voyais pas du tout championne et puis j'étais pas là pour ça au départ. Donc ça m'a donné confiance et puis j'ai appris à me connaître et à me rendre compte que j'étais capable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je montais sur un ring ou que je finissais un exercice, j'essayais à chaque fois d'aller beaucoup plus loin et ça a développé chez moi le goût de l'effort, la patience, la rigueur et le respect. Parce que même si on se donne des coups, il y a un vrai cadre où on respecte son adversaire, où même si on a, de l'extérieur, on peut avoir l'impression qu'on a de la haine ou de la colère envers son adversaire, c'est pas vrai, justement.
C'est un petit peu aussi monté en épingle. On voit la boxe, tout le monde a déjà vu des conférences de presse d'avant-match.
Ouais, mais ça c'est vraiment non mais ça c'est aux États-Unis, c'est sur des combats pro, c'est les shows à l'américaine.
Ouais, c'est les shows. Ouais.
En France, par exemple, nous sur de la boxe olympique, on n'a pas de conférence de presse. L'adversaire, on le voit que sur le ring. On n'a pas tout ça, tout ce show avant qui fait que ça monte un peu en pression, mais c'est pour faire le buzz. Mais on est vraiment sur de la boxe professionnelle. Moi, je fais de la boxe olympique. Hein,
on va écouter un petit extrait et on viendra dessus après.
J'ai pensé que ça vous intéresserait d'être mon entraîneur.
Je prends pas les filles.
Ceux qui m'ont vu combattre disent que je suis une dure.
Petite, être dure, ça suffit pas.
Être dure, ça suffit pas. Extrait de Million Dollar Baby. Mmh. Vous êtes d'accord avec Clint Eastwood ?
Que être dure, ça suffit pas. Non, ça suffit pas. Parce que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que quand on se laisse un peu emporter par ses émotions, colère, haine, on le fait un peu au début. Hein, quand on se fait un peu piquer, on a des moments où on a envie de répondre tout de suite à son adversaire en balançant des coups. Et en boxe, dès qu'on s'énerve, on fait des erreurs, on perd en lucidité et on se fait punir tout de suite. Donc voilà, il faut apprendre à...
Celui qui est calme arrive à trouver la faille si vous énervez un petit peu trop.
Il faut garder sa lucidité, apprendre à prendre du recul, à bien observer, à se reconcentrer.
Quelle est la dimension mentale dans la boxe pour arriver à ses fins ? Parce que vous en parlez, vous dites que c'est primordial.
Vous l'avez découvert tard, ça ?
Je l'ai découvert tard. J'ai pas eu de préparateur mental pendant toute ma carrière. Et puis, sur les deux dernières années, quand j'ai décidé de reprendre pour Rio, j'ai voulu me faire accompagner parce qu'en 2012, j'ai péché dans la tête, c'est-à-dire que je me suis laissée vraiment parasiter par la peur du résultat, par l'enjeu, par la peur de décevoir ma famille, mon entourage. Et j'ai eu un préparateur mental qui m'a fait de la sophro et puis après qui a utilisé différentes techniques de préparation mentale. Et aujourd'hui, je suis persuadée que c'est 80% de ma médaille. Parce que ça faisait 20 ans que je boxais. Techniquement, je n'allais pas m'améliorer au bout de 20 ans. Je savais tout faire. Physiquement, il suffisait de travailler et j'ai bossé pour ça. Mais par contre, dans la tête, je savais que j'avais un potentiel illimité, mais qu'il fallait que je l'exploite. Et c'est ce qui m'a permis de passer le cap. C'est le petit détail. Quand on arrive au jeu, on est quasiment tous physiquement, techniquement, tactiquement au même niveau. Hein.
Oui, il y a un niveau où il n'y a pas beaucoup de différence.
Mais par contre, dans la tête, c'est infini le potentiel. Et moi, j'ai eu besoin de me faire aider pour aller au-delà et faire en sorte qu'une fois sur le ring, je reste vraiment focalisée sur le moment présent, de pouvoir gérer tous les imprévus, le stress. Mais je ne suis pas au jeu. Enfin, je vis mon moment et la préparation mentale m'a aidée en ça, à vraiment pouvoir me protéger de toutes ces pensées un peu parasites.
Préparation mentale, c'est important. Je me tourne vers vous, Aliette Abécassis, qui est une grande pratiquante d'arts martiaux. Vous avez fait, vous avez fait quoi ? Énumérez, vous m'avez dit tout à l'heure, j'étais terrifiée.
Non, j'ai fait du kung-fu, du karaté, du jiu-jitsu, du krav maga. Mais j'ai fait 10 ans de boxe.
La boxe anglaise ?
De la boxe full contact.
Ah d'accord.
Et en fait, ce que j'ai vraiment appris, moi, parce que justement, j'étais pas super douée, c'était à encaisser et à éviter les coups. Et c'est pour ça que je crois que c'est une philosophie de vie unique, la boxe. Parce que dans la vie, c'est ce qu'on fait. Il faut savoir encaisser les coups, c'est essentiel dans la vie.
Anticiper, encaisser.
Et éviter aussi, on n'a pas besoin de prendre tous les coups, on n'a pas besoin d'aller au front. Il y a plein de coups dans la vie qu'on peut éviter. Donc moi, c'est ça que j'ai vraiment adoré dans la boxe. C'est que vraiment, dans ma vie, à chaque fois que je boxais, je me disais, mais voilà comment je dois conduire ma vie. C'est une école de vie, en fait.
Et les clichés qui sont inhérents à la boxe, vous en avez souffert aussi? On vous a dit, mais tu vas pas faire de la boxe, enfin, Aliette, tu vas te prendre des coups. Non, vous n'avez pas souffert?
Ah oui, beaucoup, tu vas prendre des coups, oui, mais oui. C'est... Oui, bien sûr.
Il y a d'autres clichés qui collent à la boxe, comme ça?
Oui, sur les femmes. Bon, 96, une femme dans une salle où, de boxe, c'était une ringer. Hein. C'est une femme avec un maillot de bain et une pancarte. Hein. C'est pas une femme avec des gants. Ça, c'était le premier truc. Moi, sur mon premier combat, dans le public, quelqu'un a crié « Retourne dans ta cuisine ».
Retourne dans ta cuisine.
Ouais, c'est... Voilà. C'est, j'avais 17 ans.
Vous êtes retournée?
Non, je ne suis pas retournée. Je ne suis pas allée du tout. D'ailleurs, je n'y allais pas à cette époque. Non, j'ai fait mon combat et je pense que ça a surpris tout le monde parce que les gens n'étaient pas habitués à voir des femmes boxer. Mais un des clichés, c'est que les femmes ne savent pas boxer et qu'elles font de la bagarre, qu'on n'est pas physique, un peu comme ce qui peut se dire...
Ce qu'on dit sur le rugby, sur le foot féminin aussi, on dit que c'est n'importe quoi, elles ne savent pas courir, elles ne savent pas frapper.
C'est un peu les mêmes clichés. Hein.
Et là, pour terminer, là, pour reparler de la boxe, vous parlez des arbitrages corrompus, des arbitrages qui ne sont pas justes. Alors, quand il y a un chaos, là, évidemment, il n'y a pas photo. Celui qui a mis chaos l'autre est déclaré vainqueur. Tandis que quand c'est une décision au point et que c'est trois juges arbitres qui décident, vous dites que quelquefois, il y a des décisions qui sont hallucinantes.
Ça arrive
et vous
souvent.
Avez été victime, oui, Alberto en parlait justement.
Dans une carrière, tout le monde a subi comme ça des décisions injustes. Il y a beaucoup de décisions comme ça qui sont orientées, qui sont injustes. Et c'est vrai que quand on est boxeur, c'est très compliqué parce qu'on ne comprend pas.
Vous en avez souffert personnellement?
Moi, j'en ai souffert très souvent parce qu'en plus, la France, ce n'est pas une nation forte en boxe. Donc, on n'organise pas de grosses compétitions. Donc, on n'a pas de poids, on n'a pas forcément de Français dans les instances internationales. Et c'est difficile. Il y a plein d'athlètes qui ont arrêté leur carrière à cause de ça parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Qu'on
et
a
là,
beau
en l'occurrence,
s'entraîner.
C'était un championnat du monde qui avait lieu
en Chine.
En Chine, je passe les tours et je me retrouve en finale contre une Chinoise. Sauf que, comme on était en Chine, il fallait bien qu'on les remercie pour l'investissement qu'ils avaient fait pour cette organisation. Et donc, on me déclare perdante alors qu'objectivement, je gagnais ce combat. Le plus fou, c'est que mon adversaire était dopé. Et que 9 mois après, on me renvoie la médaille par la poste avec un petit mot en me disant que finalement...
Et là, ça n'a pas été très élégant parce que la manière de vous donner votre médaille amplement méritée, ça s'est fait mi-figue, mi-raisin.
Enfin, vous étiez championne du monde. Sarah Ouramoun, Mes combats de femmes, c'est chez Robert Laffont. Les dates qui ont compté dans le parcours d'Eliet Abécassis, c'est maintenant. On commence en 96, tenez-vous aussi, le premier roman chez Ramsay, Qumran.
Oui. Mmh. Et c'est un roman qui a été refusé par toutes les maisons d'édition. Je l'ai envoyé à tout le monde pendant un an. Et au bout d'un an, je l'ai envoyé dans cette petite maison d'édition. Et puis, ils l'ont pris. Et puis, ça a été le succès de l'été.
Traduit en 18 langues.
Ouais. Et alors après, toutes les maisons d'édition sont revenues vers moi pour signer.
Là.
Mais Ramsay a fait faillite. Donc, j'ai jamais rien eu de
ça
la vente de tous mes livres.
C'est un carton planétaire traduit en 18 langues.
Sur les droits.
Ah non, rien de rien. Ben non, parce que dans les faillites des éditeurs, les auteurs sont les derniers payés.
Oui, je vois très bien. Oui.
Et ils avaient vendu aussi les droits cinéma 15 jours avant la faillite. En tout cas, j'avais ce succès et puis c'est comme ça que je me suis lancée dans l'écriture.
Voilà, la machine était lancée. On passe en 1999, c'est le premier scénario qui est adapté au cinéma. Kadosh, réalisé par Amos Gitai.
אני יודעת מה אתה מרגיש עמוק בלב שלך, מאיר. אתה סובל בגלל שאין לנו ילדים. אתה סובל בגלל ש... אתה חושב שאנחנו חיים בחטא.
הכרה אישה ואינה אישה. ומי שמת בלי בנים נמצא עוקר דבר מן התורה.
Alors d'avoir son premier scénario, d'un seul coup, sur grand écran, ça fait quel effet ?
Oui, c'est magique.
Ah oui.
C'est magique parce que c'est des personnages qui sont nés dans mon esprit et tout d'un coup de les voir prendre forme à travers des êtres humains qui jouent des vrais gens. Voilà, parce que en fait c'est ce que je dis tout le temps. Comme j'écris toute la journée, je suis tout le temps dans un monde imaginaire et à la fin j'ai besoin de voir des vrais gens.
Mais vous savez à quoi ils ressemblent quand vous écrivez leur profil.
Ils sont faits
de chair et d'os dans votre tête.
Mais absolument, ils se mettent à exister même parfois plus que les vrais gens.
Et quand vous les voyez à l'écran pour la première fois, ça fait un choc. Et quelquefois, on peut être déçu, on peut se dire ah ben non, ça ressemble finalement.
Oui, ben moi, j'ai pas été déçu. J'ai eu deux œuvres adaptées. Après, c'était Un heureux événement.
Un heureux événement, c'était en 2006. Ça avait été adapté au cinéma par Rémy Besançon. Ben, tiens, on va écouter la bande-annonce.
Quand est-ce qu'une histoire commence ? Au premier rendez-vous ? Au premier baiser ? Au premier...
Je t'aime.
On était heureux, amoureux.
J'ai envie d'aller au fond de toi.
Fais-le-moi.
Alors là, c'est encore autre chose. C'est un roman. Mm-hmm. Et d'un seul coup, il est un peu trituré, malaxé, pour devenir un film.
Oui.
Ça a été respecté, votre roman ? Ça n'a pas été trop dénaturé ? Parce que quelquefois, l'auteur dit que, à ce moment-là, son roman lui échappe et advienne que pourra.
Oui, alors moi, je n'ai pas ce problème, parce que le roman existe en soi, mm-hmm. et le réalisateur fait son œuvre à lui. Il s'inspire du roman, mais c'est bien qu'il le triture et puis qu'il en fasse son œuvre.
Il se l'approprie aussi, oui.
Mais bien sûr, mm-hmm. il doit se l'approprier. Quelque chose d'un peu troublant, c'est que le roman était quand même un reflet de ma vie, mm-hmm. Même si je transforme, je crée des personnages. Mais là, c'était beaucoup quand même mon histoire quand je suis devenue maman. Et donc, de voir cela à l'écran, c'est encore plus troublant.
D'autres émotions encore. Oui. Au-delà du livre. Oui. En 2018, vous écrivez L'envie d'y croire. En 2019, vous venez nous en parler sur France Inter et vous dites, avouons-le, nous sommes perdus. Alors, vous êtes désenchantée ou carrément déprimée ?
Mais alors, pas du tout. Mais pas du tout. Je suis ni désenchantée, ni déprimée, ni passéiste, ni conservatrice. Je suis très geek, j'adore les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Instagram, Twitter. J'adore notre modernité. Simplement, je suis combative. Voilà, boxeuse.
C'est ça, c'est la boxeuse qui reprend le dessus.
Oui, parce que... je pense que on est dans une époque, c'est une époque passionnante parce qu'on est en train de changer de civilisation, de mode de vie. Depuis 3-4 ans, je crois que les choses se sont accélérées. C'est là où j'ai ressenti l'urgence d'écrire et de décrire un petit peu. Ce livre, c'est comme un journal de vie, mais c'est aussi des pensées. Je me suis dit, il y a 3-4 ans, quand on recevait un SMS, ouais. on avait quelques jours pour répondre, d'accord ? C'était pas un drame sur répondre.
Il y a une accélération.
Il y a une accélération. C'est-à-dire que là, si on répond pas, il y a un problème, 3 points d'interrogation. On est en train d'être angoissé, confisqué par la technique. Et la science et la technique sont en train de régner sur nos vies. Donc, il faut reprendre le dessus, retrouver l'humanité. C'est aussi vrai dans les rapports. Parents-enfants, parce qu'on a des enfants qui, dès qu'on leur achète un portable, eh bien, ils sont complètement partis dans leur monde. Ils ne veulent plus avoir de conversation.
Pour le coup, déconnectés, mais avec les parents.
Oui, oui, absolument. Oui. C'est difficile, en fait, quand on a des conversations avec eux, ils ont leur portable en main, ils disent oui. Enfin, il faut arriver au fait, quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir de conversation à bâton rompu. On s'endort tous, parents ou enfants, avec notre portable. Et le premier geste qu'on fait quand on se lève, c'est d'allumer notre portable. Voilà. C'est-à-dire, le premier rapport, c'est à la technique. On est dans un monde où les politiques sont discréditées, où les religions sont discréditées. Donc on n'a plus de guide. Et finalement, cette envie d'y croire, elle reste là. Et sans le savoir, on est en train de croire à la science et à la technique et à ce que Google veut bien nous raconter, Wikipédia et
vous
tout ce que
Apple... Vous parlez
d'ogre
technologique.
Oui. Oui, l'ogre technologique, ouais. Là, je fais référence au livre en fait de Michel Serres, Petite Poussette, où il dit c'est formidable, nos enfants vont être élevés avec la technologie, le monde numérique, ça va leur apprendre tellement de choses. Et moi, je ne pense pas du tout ça. Je pense qu'au contraire, c'est des petits poussés que l'on perd dans la forêt. Mmh. Et c'est très facile de se débarrasser de ces enfants en leur offrant un portable. On n'a plus à les amener en vacances. On n'a plus à les emmener même dehors. Tout ce qu'ils veulent, c'est leur...
Donc on est un petit peu responsable de ça.
On est responsable. Mmh. On est absolument responsable en tant que parent. On ne doit pas démissionner.
Vous parlez aussi du marché de l'amour.
Oui, ça c'est vrai que il y a un marché des sentiments, comme le montre la sociologue Eva Illouz, qui a étudié l'évolution du rapport amoureux avec toutes les applis, les sites de rencontres, qui ont l'avantage, effectivement, de faire en sorte que les gens se rencontrent dans cette société hyper individualiste, mais qui aussi crée un vrai marché où, si ça ne fonctionne pas, eh ben, on a tout de suite quelqu'un d'autre. D'ailleurs, on en a 10 autres qui sont dans le périmètre, à qui on peut donner rendez-vous. Et j'ai l'impression qu'il y a une perte de la passion amoureuse, sauf dans les divorces où là, ça devient la haine totale. Mmh. Mais le romantisme, l'idéalisme, j'ai peur qu'il soit aussi perdu dans ce monde technologique.
Tout se déplace.
Un objet de consommation.
Tout se déplace, c'est pas forcément, c'est vrai pour certaines personnes et pas pour d'autres. Parce que la réification des sentiments, la réification des relations humaines, tout transformé en marchandise, ça date pas d'hier. C'est quand même, c'est mis en place avec un certain capitalisme, oui. Et l'hypercapitalisme ne fait qu'exacerber tout ça. Oui. Ce que vous démontrez dans votre livre.
Tout à fait. Oui, c'est l'hypercapitalisme associé à la technologie qui fait quand même basculer dans un autre monde. Je pense qu'on évolue vers un monde que voudrait faire naître le transhumanisme, c'est-à-dire ces hommes augmentés, sélectionnés par un eugénisme qui est un eugénisme scientifique et libéral, c'est-à-dire que les gens sélectionneront eux-mêmes leurs embryons, blonds avec des yeux bleus et un fort QI, je pense que...
Le meilleur des mondes.
Oui, ça va être un petit peu ça, le meilleur des mondes.
Vous parlez aussi, vous évoquez les nouvelles haines. Ça, oui. Ça devient quand même un gros souci, puisque c'est ce qu'on appelle aussi les fake news, ou alors ce qu'on peut déverser aussi sur Internet, qui des infos ou des opinions qui sont suivies par des groupes et qui créent, oui, des nouvelles haines.
Ouais, c'est incroyable comme les réseaux sociaux, enfin Twitter surtout, mais aussi tous les réseaux, en fait, c'est vrai, c'est un véritable exutoire et les gens déversent une haine incroyable parce que, en fait, justement, ils écrivent, ils sont pas dans le face-à-face ni dans le rapport humain, donc ils se croient absolument tout permis. Et avec ça, il y a aussi « Ah, mais t'es super, je t'aime, je t'aime ». Alors, « je t'aime », c'est à la fin de chaque phrase. Ça ne veut plus rien dire. Et puis, les amis Facebook aussi, là aussi, en fait, ces amis virtuels, je crois que ça aussi, le terme même d'amour ou d'amitié, c'est vidé de son sens. Dans ce monde où on n'a pas le temps de réfléchir, parce que c'est un monde accéléré, où on n'a plus le temps de rien, et en fait, la technologie, sous couvert de nous faire gagner énormément de temps...
On n'a plus le temps de rien parce qu'on refuse, et on veut bien... Enfin, au contraire, on veut bien accepter de plus avoir le temps. On peut le prendre, le temps. Tout à l'heure, vous a demandé, mesdames, des titres qui vous rappelaient un souvenir. On commence par vous, Sarah, et vous avez choisi ça. Tina Turner, The Best. On écoute ça avant de monter sur le ring, c'est ça?
Ouais, exactement. C'est une chanson qui m'a beaucoup accompagnée parce qu'elle dégage beaucoup de force.
Énorme énergie.
Ouais, de l'énergie, elle est ancrée. Enfin, voilà, c'est tout ça. Et en fait, ça, c'est une chanson qui faisait partie de ma préparation mentale.
D'accord.
Donc voilà, j'arrivais à trouver la force en Tina.
Bon, on va voir si ça marche. Tiens, tu peux me le remettre, s'il te plaît, là, le Tina Turner. À fond, par contre. Ah, à fond.
Même sous la douche, c'est pas mal.
Ah ouais, dis donc, ça fait. Là, je me sens. Eliette, vous sentez qu'il y a quelque chose?
Je sens que vous allez vous battre.
Vous sentez la tigresse, là, qui monte en vous? C'était le choix de Sarah. Eliette. On change d'ambiance.
Ironique, c'était elle, l'étoile qu'il cherchait dans le ciel. Elle a su que c'était lui, le futur présent dans sa vie.
Debout sur le zinc. J'ai une histoire particulière avec eux. Vous écrivez pour eux, enfin.
Oui, j'écris pour ce groupe de rock qui est un groupe de scène qui est incroyable sur scène. Vraiment, c'est des phénomènes.
Et ce titre-là, deux fois oui.
Alors ça,
qu'est-ce que c'est comme souvenir?
C'est la rencontre avec Simon, qui est chanteur, Simon Mimoun, chanteur, auteur, interprète de ce groupe, et en fait qui se trouve être le frère de mon beau-frère. Et on s'est connus lors du mariage de ma sœur et de son frère. Et on a écrit cette chanson pour eux, pour leur mariage, et ça a été le début d'une collaboration jusqu'à aujourd'hui. On a fait plusieurs spectacles ensemble. Il a fait la musique de ma pièce de théâtre qui s'appelle Séfarade. Et l'année dernière, on a fait au Café de la Danse un spectacle musical qui s'appelle Scène d'amour et qui est un spectacle en chanson et en jeu avec Simon Mimoun et la chanteuse Émilie Marche sur 5 scènes de la vie d'un couple.
Vous avez écrit aussi pour Monsieur Enrico Macias?
Oui.
Ouais.
Une chanson qui s'appelle Séfarade. Et j'ai eu la chance de le rencontrer parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire, de très charmant, très, très lumineux et.
Très drôle aussi.
Oui, très drôle.
Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. C'est vous les femmes. Bob Dylan, Hurricane.
Story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Three bodies lying there at his petty. Cops. And so Petty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. The middleweight crown had no idea what kind of shit was about to go down when a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street.
Bob Dylan, Hurricane sur France Inter.
Vous les femmes.
Sur France Inter.
En compagnie d'Eliette Abécassis pour L'envie d'y croire chez Albin Michel et Sarah Ouramoun, Mes combats de femmes chez Robert Laffont. Je voulais vous demander, Sarah, on en a parlé là tout à l'heure, je vous demandais si ça continuait, vous m'avez dit oui, c'est une excellente nouvelle, ce sont les cours de boxe aux mamans avec une halte garderie. Donc ça continue toujours et c'est assez formidable.
Bon, ça continue, ouais. J'ai créé ça en 2011. Parce qu'en fait, il y a plein de femmes qui venaient à la salle en me disant, je serais pas là parce que problème de garde.
Aller chercher le petit. Exactement. Ou la nounou peut
donc
pas.
En fait, ça a été la solution de se dire pendant les cours, on met une garderie en place et puis on s'organise pour que elles puissent déposer leur enfant et s'entraîner. Et en même temps, sur les fins de séance, c'était assez sympa de voir les enfants venir s'installer sur les tapis, accompagner leur maman. Donc oui, ça continue.
Et là, nous au premier chef, je trouve que c'est quand même bizarre que dans un bâtiment comme celui de Radio France, la Maison Ronde, où il y a quand même des locaux à n'en plus finir, il n'y ait pas encore une crèche ou une garderie qui est installée.
Voilà.
Peut-être la dernière fois que je vous parle à ce micro. C'est peut-être la dernière fois. Il y a aussi un documentaire sur vous, Sarah. Sarah la combattante, c'est sur Canal+.
Allez Sarah, allez.
Comment te dire? Je sais pas comment te décrire ça. Elle représente la France.
J'ai de la chance d'avoir une sœur comme ça quand même.
C'est une médaille d'argent pour une femme en or. Elle a lancé un message aux femmes. Attendez pas qu'on vous fasse de la place. Prenez votre place, vous êtes à votre place.
Médaille d'argent, une femme en or. C'est beau ça.
C'est très beau tout ce qu'ils disent. Non, je suis très touchée. Non, j'ai eu de la chance d'avoir été suivie par un réalisateur pendant 10 ans. Et ça a donné lieu à ce documentaire, Sarah la combattante. Donc un an et demi qui résume 20 ans de carrière. Mais c'est très précieux parce que pour le coup, c'est un documentaire qui tourne beaucoup, même dans les écoles, et qu'on diffuse au maximum pour justement faire passer le message que tout est possible et que les jeunes filles doivent oser, doivent prendre leur place comme
qu'est-ce que vous diriez aux mamans, qu'est-ce que vous diriez aux mamans qui nous écoutent et qui ont des filles qui disent « Ah, j'ai envie de faire la boxe » et à qui ça fait peur?
Je leur dirais de les laisser faire. Il y a plein de formes de boxe, dont la boxe éducative qui permet de tester la boxe sur de la stratégie, sur de la gestion des émotions, et ça va leur permettre de prendre en confiance et surtout de prendre leur place et de s'affirmer.
Alors justement, Sarah la combattante sur Canal+, et sur MyCanal, c'est donc à la demande, c'est jusqu'au 7, il vous reste 2 jours. Eliette Abécassis, justement tout à l'heure on a parlé de justement ces réseaux sociaux qui diffusent tout et n'importe quoi. Est-ce qu'il y a une solution?
Oui.
Pour s'en sortir.
Il y a une solution pour s'en sortir. Je crois qu'il faut réintroduire de la foi, mais je dirais plutôt de la foi en soi, de la foi en l'autre, du sacré, pas par rapport à la religion ou à une forme de transcendance, mais des moments sacrés. C'est-à-dire que le repas, c'est un moment sacré. Là, on est en train de vivre un moment sacré, on est les uns avec les autres et on n'a pas nos portables, on se consacre les uns aux autres. Voilà. Et ben, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça aussi dans la famille? C'est-à-dire, quand on arrive à la maison, eh bien, on se pose, on se parle, c'est un moment sacré. Une fois par semaine, je pense qu'il faut déconnecter. Alors quand je dis un jour entier, les gens, ils se mettent à hurler. T'es folle, mais ça paraît pas fou. C'est une journée sacrée, après on choisit celle qu'on veut. Samedi, dimanche, évidemment, c'est plus facile puisqu'on normalement on travaille pas. On prend pas son portable et puis on fait des activités ensemble avec les gens qu'on aime, les amis, la famille. Et on ne fait que ça et puis on reprend son portable à la fin et on se sent comme régénéré humainement. Si on le ritualise pas, si on se dit voilà, c'est une fois quand on veut, on le fait pas.
Mais
voilà.
Plus largement que ça, face à une société de plus sans foi ni loi, c'est ce que vous dites, vous prenez une mystique républicaine. Vous employez le mot mystique.
Bah, c'est-à-dire que, en fait, face à le discrédit des politiques, le fait qu'il n'y ait plus personne pour nous guider, je pense que les gens, ils vont se réfugier vers ceux qui croient, voilà, vers les extrêmes, que ce soit les extrêmes en politique ou les extrêmes en religion, parce que eux, ils ont des idées. Donc c'est pour ça que je pense que si la République veut continuer de s'affirmer dans toute sa sagesse, elle ne peut pas s'affirmer avec un rien. Il faut qu'elle s'affirme avec des rituels, avec effectivement une mystique, c'est-à-dire il y a des jours où on célèbre la fin des guerres de la République. C'est vrai que ça, c'est des jours de fête nationale, c'est des jours que l'on respecte en tant que tel. Et il y a des discours qui vont aussi, des politiques qui doivent aller dans ce sens, dans le fait de réenchanter notre identité. Mais pas seulement notre identité individuelle, mais notre identité collective, parce qu'on a besoin de croire dans quelque chose de collectif. C'est ça qui est exaltant.
Le vivre ensemble et trouver des moments. Eliette Abécassis pour L'envie d'y croire, journal d'une époque sans foi, chez Albin Michel. Alors chaque semaine, Alberto brosse le portrait d'une femme, quasi inconnue, et pourtant une femme exceptionnelle. Il était une femme, aujourd'hui le portrait de Rena Kanokoji. On vous écoute, Alberto.
Alors, il était une femme, Rena Kanokoji. Son destin va vous parler certainement, Sarah. Rena naît à Brooklyn en 1935. Élevée à la va comme je te pousse au sein d'une famille instable, elle doit très jeune gagner un peu d'argent en exerçant des petits boulots. Et plus tard, elle prend la tête d'un gang d'ados délinquants, carrément les Apaches. Pour s'imposer, Rena se muscle en soulevant les haltères de son frère et en tapant dans un punching ball. Elle se marie une première fois et donne naissance à un garçon. Elle est toute jeune, elle a 18 ans. Et en 1955, à 20 ans, un ami judoka lui enseigne quelques prises. Très vite, Rena s'enthousiasme pour cet art martial, dont elle dira plus tard que la pratique l'apaisait, en l'aidant à se contrôler et à se respecter. Combattante pugnace, elle est alors surnommée Rusty, du nom d'un chien au tempérament particulièrement accrocheur dans le quartier. Inscrite dans un club de Brooklyn, ses progrès sont très rapides. Mais on lui refuse de participer à des compétitions. Celles-ci, en effet, sont interdites aux femmes. Qu'à cela ne tienne, en 1959, des garçons de son club sont sélectionnés pour le championnat YMCA de New York. Rena intègre alors l'équipe en se déguisant en homme. Elle se coupe les cheveux très courts et se bande les seins. Remplaçante, elle va quand même monter sur le tatami à la faveur de la blessure d'un camarade. Et elle remporte le combat contre un adversaire masculin pourtant très coriace. Cela permet à son équipe de remporter le championnat, mais les juges ne sont pas dupes. Plus tard, Rena racontera... L'organisateur du tournoi m'a regardé et m'a demandé si j'étais une fille. J'ai eu envie de lui rétorquer « Et vous, vous êtes une vache ?» Obligé de déclarer forfait pour que son équipe ne soit pas éliminée, Rena doit renoncer à sa médaille d'or. En 1962, faute de perspective pour elle aux USA, elle part pour le Japon, à Tokyo, au mythique Kodokan, le vaste complexe sportif, centre international de judo bien connu. Depuis 1926, les femmes y sont admises, mais dans des groupes non mixtes. Après avoir vaincu toutes ses adversaires femmes, Rena est la première femme autorisée à s'entraîner dans un dojo réservé aux hommes. Elle y rencontre celui qui deviendra 2 ans plus tard son deuxième mari. Harry, Ryohei Kanokoji, d'où son nom, ceinture noire de judo, cinquième dan et karatéka de très très haut niveau. De retour aux USA, Rena va mener un combat tout aussi tenace que ceux qu'elle a menés sur les tatamis. Celui pour l'égalité des sexes dans l'accès au sport et aussi dans l'accès aux compétitions sportives, à commencer bien sûr par le judo. En 1980, au Madison Square Gardens, Rena Kanokoji organise les premiers championnats du monde féminin de judo qu'elle finance. Elle finance elle-même en hypothéquant sa maison. Elle devient entraîneur de l'équipe nationale féminine des États-Unis et elle coachera notamment de grandes judokas telles Maureen Brazil et Margaret Castro. En 1988, au JO de Séoul, ses efforts sont couronnés de succès. Pour la première fois, le judo féminin est admis comme discipline olympique. Rena avait été jusqu'à menacer le comité olympique d'un procès. Elle lance ensuite un fonds pour permettre à des athlètes femmes d'accéder à la compétition de haut niveau dans d'autres sports que le judo. Rena est la première femme à devenir ceinture noire 7e dan, de quoi faire d'elle une commentatrice compétente pour la chaîne NBC au JO d'Athènes en 2004. En 2008, l'empereur du Japon la décore de l'ordre du Soleil Levant, la plus haute distinction japonaise, voilà. Et elle est nommée mère des femmes du judo. La même année, un demi-siècle après avoir été dépouillée de sa médaille d'or au YMCA pour avoir combattu déguisée en homme, on le racontait tout à l'heure, Rena se voit attribuer une médaille d'or par le YMCA de l'État de New York pour rendre hommage au travail de toute une vie. Après un ultime combat mené cette fois contre la leucémie qu'elle ne remporte pas, hélas, Rena Kanokoji meurt en 2009. Total respect pour Rena Kanokoji. Voilà, ça vous parlait, Sarah Ouramoun, j'imagine, ce destin.
Vous connaissiez l'histoire de cette...
Non, je ne connaissais pas.
Et vous, Eliette?
Je ne connaissais pas, mais il n'y a pas un roman récemment qui a été fait sur elle, je crois.
C'est possible, je ne l'ai pas lu, mais cette vie est exemplaire. Il y a beaucoup de points communs avec votre parcours. Ça m'a beaucoup ému parce que lisant votre livre, j'y ai pensé. C'est pour ça que je raconte aujourd'hui le destin de Rena Kanokoji.
Et tous ces portraits de femmes exceptionnelles sont sur le site Il était une femme.
Vous les femmes?
Oh, ange de douceur.
Daniel Morin.
Ouais. Étant sur ma souffrance,
sur France Inter,
le charme caressant de ta douce présence.
Alberto fait des portraits, mais il offre aussi des cadeaux. C'est pour vous, mademoiselle, les
cadeaux
d'Alberto.
Pour vous, Eliette avec Assis, c'est Flâneuse de Laure Elkin. Je me gourde de bouquins. Le voici, de Laure Elkin, aux éditions Ehebeck. C'est une ode jubilatoire à la déambulation féminine qui peut se révéler encore subversive aujourd'hui. Laure Elkin exalte ce qui se joue chaque fois qu'une femme sort à la rencontre de la ville, à Paris, Londres, New York, Venise. C'est un très très beau livre. Magnifique. Pour vous, Sarah Ouramoun, alors une BD qui retrace la vie de combat de Claudette Colvin, ça s'intitule Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin chez Dargo. Émilie Plateau, c'est l'auteur. C'est en 1955, à l'âge de 15 ans. Eh bien, avant Rosa Parks, cette jeune fille, elle refuse de céder sa place dans un bus à une américaine bien blanche en Alabama, à Montgomery. Dernier petit mot, je voulais saluer, puisque vous en parlez dans votre livre, Eliette Abécassis, une écrivain que vous aimez, que j'aime beaucoup. Oui. C'est Marie Rouanet qui m'a envoyé, alors je le garde pour moi, Territoire sonore aux éditions Florine. Marie Rouanet, pour les auditeurs, c'est une grande auteure, une grande écrivaine. Nous les filles, ABCDR de l'espérance, c'est un titre qui vous va bien. Et donc je salue Marie Rouanet au passage. Lisez ses livres.
Extraordinaire.
Et ceux
auteur,
de Eliette Abécassis et Mes combats de femmes, bien sûr.
Vous entendez la musique, ça veut dire que c'est la fin de Vous les femmes aujourd'hui. Nos invités étaient Eliette Abécassis pour L'envie d'y croire, journal d'une époque 100 fois chez Albin Michel. Réservez des moments pour le vivre ensemble. Voilà comment vous allez vous en sortir, les amis. Sarah Ouramoun, Mes combats de femmes chez Robert Lafont. À noter que le documentaire Sarah la combattante est sur MyCanal. C'est jusqu'au 7. C'est dans 2 jours. Merci Albert Algou à la réalisation de cette émission. Fred Milano, attaché de production. Christine Kern à la technique. Anne-Laure Cochet, programmation musicale. Thierry Dupin. La semaine prochaine, nos invités seront Angélique Kidjo et Sarah Marquis. Au revoir, bon dimanche à l'écoute de France Inter et fini les vacances. Rendez-vous demain à 6h57. 6h.